Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 16 octobre 2010. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Faraï. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici les violences lycéennes que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
La tenue vestimentaire de Marlon Brando dans le film, donc effectivement tout en blanc,
avec
etc.
Avec des franges et tout, enfin bon.
C'est vraiment, en fait, c'est marrant parce que c'est le prototype de l'habit de cow-boy, mais d'opérette, quoi.
Radio FMR présente... Le supplément week-end... Le magazine des cultures geeks avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB. Bonjour et bienvenue à tous. On est obligé de régler comme des... Voilà, c'est sans commentaire comme d'habitude sur Radio FMR pour faire la technique. Bonjour et bienvenue, bonjour Ultimatum.
Bonjour Das Creek.
Bonjour du sport.
Bonjour.
Alors, je ne sais pas si vous avez vu dimanche dernier les Simpsons sur la Fox.
Mais bien sûr que non.
Bien sûr que non, puisqu'on l'a pas et qu'on le regarde légalement. Sauf que sur le net, dans la minute de la diffusion de l'épisode, on a eu l'épisode, on a eu le couche gag, c'est-à-dire le fameux générique avec ce gag qui a lieu sur le canapé, qui s'est retrouvé sur Internet. Ils n'ont pas fait appel à n'importe qui pour le faire, puisqu'il s'agit de Banksy, qui est un graffeur londonien qui, aux tendances, je vais dire, qui sont plutôt contestataires et tout ça. Ça a commencé avec la signature de Banksy, tagué un petit peu partout dans la ville. Durant le générique, avec Bart qui se fait punir parce qu'il a écrit partout sur les murs. Et après, un générique incroyable où, en fait, on a une critique particulièrement violente sur les produits dérivés des Simpsons, produits dans un pays totalitaire qui est une prison et où les DVD, le trou des DVD est percé par des licornes. C'est un truc mais ultra dépressif en noir et blanc, un truc incroyablement noir. Et ça a fait un buzz sur le net absolument gigantesque. Et le plus drôle, c'est que le patron de la chaîne Fox qui disait « Mais j'aimerais dire que nos DVD sont percés sur les cornes des licornes malades. » C'est absolument incroyable. On se prend une grosse baffe. Et du coup, on a mis le lien... Dans le site suppléantweekend.fr, vous allez dans la liste des chroniques. Vous avez le Simpson couche gag de l'épisode qui s'appelle Money Bart, en plus, où il est question en plus de Bart Simpson qui se fait de l'argent grâce à une équipe de baseball, si je me souviens. Enfin, ce que je l'ai lu en diagonale, le résumé. J'aime pas. J'attendrai les multiples rediffs sur W9, je passe au moins 5 fois. Jeudi prochain, Robin Recht dessine une série préquelle du Troisième Testament. Le Troisième Testament, c'était une série scénarisée par Xavier Dorisson et dessinée par Alex Alice. Ou c'est l'inverse, je ne sais plus. En tout cas, Julius est scénarisé par les deux auteurs et dessiné par Robin Recht. Il sera en dédicace jeudi prochain à la librairie Gibert. Joseph, pour ceux qui connaissent pas le Troisième Testament, c'est ni plus ni moins qu'une histoire de Templiers en rapport avec un évangile apocryphe, c'est-à-dire l'une des fameuses évangiles qui ont été masquées à partir du 5e, 6e siècle, histoire de dire non, on peut pas dire que Jésus, non, tu peux pas dire ça et tout ça. Et là, c'est une préquelle de la série puisque cela vient justement de Julius, celui qui a écrit ce fameux Troisième Testament. Si vous ne connaissez pas, c'est une excellente série, graphiquement.
Ouais, c'est comme Da Vinci Code, quoi. On apprend que Jésus,
On apprend effectivement que Jésus fumait de la beuh, etc. Et résultat, après, ben, Dieu a les boules. Ça, c'est jeudi prochain, donc, à la librairie Gilbert Joseph. Pour ceux qui sont à Toulouse, je tiens à faire un clin d'œil pour ceux qui nous écoutent en podcast un petit peu à l'international, puisque en ce moment a lieu Istanbul. C'est du 13 au 23 octobre à Istanbul, justement, avec des dessinateurs de BD comme Philippe Guéluc, Jean Dufaux, Philippe Wurm. Il y a des ateliers sur les scénarios, il y a des auteurs locaux, bien sûr, qui sont présents, et des dessinateurs de presse. Donc c'est à Istanbul, donc c'est côté, je crois que c'est côté asiatique. C'est dans un quartier, d'ailleurs, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de galeries d'art. Contexte difficile parce que justement une galerie d'art, il y a eu un incident avec des extrémistes tout récemment, c'était il y a 2 mois, donc aux dernières nouvelles, non, ça se passe franchement bien, il y a des expos de planches, c'est pas inintéressant. Il y a aussi ce week-end, il y a la deuxième édition du Festival International de la Bande Dessinée d'Alger, où il y a des auteurs qui sont présents comme Baru, Johan, Velman. Alors Baru, c'est l'autoroute du soleil et plein d'autres choses.
C'est juste le Grand Prix d'Angoulême cette année.
C'est vrai.
Ouais, fait péter les basses, ça s'appelle.
Hein ?
Ça s'appelle Fait péter les basses, non ?
Son dernier album ?
Ah, ouais. Je sais pas.
Je sais plus. Johan, c'est lui qui est en train de reprendre Spirou, et c'est lui qui fait aussi Toto l'Ornithorynque. Velman, c'est un dessinateur absolument gigantesque.
Un dessinateur.
Un scénariste. C'est le scénariste de Johan, mais parce que aussi il fait d'autres choses, et il fait aussi seul.
Oui.
Un scénario. Je suis pas réveillé.
Scénarisé, Spirou.
L'invité d'honneur, c'est Kino, qui est le dessinateur de Mafalda. Et Francis Grou, du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême, est à Alger ce week-end, justement, à l'occasion de cette manifestation. Où, comme d'habitude, comme d'habitude, c'est tout à fait normal, je veux dire, comme à Istanbul, il y a des dessinateurs locaux, des dessinateurs de presse. Il faut savoir qu'en Algérie, durant les années 90, il y a eu une véritable vague de dessinateurs de presse qui sont arrivés. Avec un début de libéralisation, juste avant les événements tragiques que l'on connaît, et qui sont très présents et qui sont franchement extrêmement talentueux. Il y a pas mal de dessinateurs aussi locaux qui sont présents, et des fanzines. Donc ça, c'est à Alger, La Blanche, au Festival International de la Bande Dessinée. Donc à mon avis, c'est plutôt proche du port, si vous connaissez, après le palais présidentiel. Non, je connais pas toi.
Quoi, je regarderai sur Google Earth.
Ouais, c'est ça, oui, tu pourras te foutre de ma gueule. C'était les infos non préécrites et ça m'apprendra à ne pas les réviser avant. Oui, alors évidemment, il y a les copains de Sinécure qui doivent se foutre de ma gueule. Bon, ça, c'est fait. On a compris. On va commencer les sorties bande dessinée. Avec Deadman Wonderland, dont les 2 premiers tomes sont sortis dans chez Darkana, puisque c'est un manga plutôt adolescent-adulte de Jinsei Kataoka et Kazume Kondo. Deadman Wonderland est un concept assez novateur dans la rentabilisation des personnes incarcérées. C'est une prison privée qui a une concession de parc d'attractions. Et quelles attractions ? Comme une partie des prisonniers y sont condamnés à mort, on peut imaginer des divertissements assez extrêmes. Hein. Bon, mais attention, hein, officiellement, il n'y a pas de mise à mort devant le public. Après tout, c'est un parc d'attractions familial. Car le Japon n'a pas supprimé les peines de mort et se débat dans une dette à la limite de la faillite après le grand tremblement de terre de Tokyo. Transformer les ruines d'une grande ville en une concession pour une prison privée dont les détenus officient comme divertissement d'un parc de loisirs. Voilà un scénario qui n'aurait pas déplu à John Carpenter.
Oh, mais oui, mais tu nous passes la musique d'ailleurs.
Elle était facile celle-là. À 14 ans, Ganta est un garçon sans histoire. Mais depuis que l'ensemble de sa classe a été massacré sous ses yeux, il y a moins de mois, sa vie a complètement basculé. « soupçonné d'être l'auteur de ce massacre sanguinolent, condamné injustement à mort, il se retrouve incarcéré dans la Deadman Wonderland. Il y découvre un univers glauque et plein de faux-semblants. Il doit sa survie par la possibilité de s'acheter tous les deux jours un « bonbon ». Entre guillemets, bonbon. C'est le principal moyen de gagner de l'argent dans la monnaie virtuelle qui accourt dans ce lieu. Je me suis planté.
Ouais.
Donc en fait, il est empoisonné de manière continue, c'est sa peine de mort. Et le seul moyen qu'il a de continuer sa peine de vivre, c'est de s'acheter le bonbon tous les deux jours et donc de gagner de l'argent tout simplement en faisant soit des corvées, soit en participant à des grandes attractions touristiques.
Et est-ce qu'à la fin, tu t'aperçois qu'en fait, il avait juste un rhume et que c'était pas vraiment un virus ? Et qu'il boite et qu'il est borgne ?
Non ? On n'y est pas encore.
D'accord.
On n'en est qu'au deuxième tome. Hein. Ganta donc se retrouve projeté dans le pire univers possible, rongé par le besoin de découvrir qui est cet assassin étrange qui peut voler et emporter une moisson de vie d'un seul geste. Serait-ce vraiment dans ce lieu glauque qu'il va découvrir le vrai coupable ? Bon, le scénario doit son originalité par la cruauté du sort qui s'acharne sur Ganta et sur le fait qu'il a besoin impérativement de se faire des amis dans cet univers destructeur. Sauf que bien évidemment, les autres prisonniers sont bien souvent réellement coupables de leurs crimes et donc attendent le moindre signe de faiblesse. Bah oui, parce que eux aussi, ils ont besoin de s'acheter le bonbon. En soi, c'est amusant d'avoir un héros naïf dans un univers qui ne veut que sa mort. Mais une partie de rebondissements sont archi convenus pour ce type de manga. On découvre bien sûr les objectifs non avoués de cette prison, que d'ailleurs elle a des bâtiments cachés et les nombreuses compromissions des gardiens. Ah oui, c'est une entreprise privée. Après, c'est assez violent. Le scénario se veut dérangeant, sadique, mais cela reste parfaitement lisible pour un enfant de plus de 14 ans. Deadman Wonderland tome 1 et 2, c'est Jinsei Kataoka et Kazuma Kondu, excusez-moi, c'est la collection d'Arcana Shikana. Alors si je peux vous donner un conseil quand même, c'est d'éviter de faire une émission de radio préparée le matin même, alors que la veille vous avez bossé de 6h du matin à 2h du matin. Et d'ailleurs, je suis du coup coincé musicalement. Allez!
Mets-nous les rois de Suède.
Tu y tiens vraiment? Non mais attends, alors lequel? Lequel alors les rois de...
Halloween c'est juste à la fin du mois. Hein,
le
sinon...
socialisme.
Socialisme Non, moi je pensais... Ouais, mais socialisme on la connaît par cœur et tout. Les chanteurs qui dérangent,
peut-être
tiens.
Pas les auditeurs.
Que...
Hein.
Non, mais tu mets socialisme, du sport t'as demandé socialisme, alors tu mets socialisme.
Bah ouais, mais après on va me dire, ah, tu vas encore mettre 100 balles dans le nourrin parce que t'as encore cité le nom d'une chaîne. Oh, faites chier les enfants.
C'est pas une chaîne, c'est la chaîne.
Siècle, les grands penseurs face à la révolution industrielle imaginent que le prolétariat doit s'unir pour lutter contre le grand capital.
Un jour est né le socialisme pour contrer le conservatisme, pour mettre sa race au capitalisme et niquer bien profond l'impérialisme. En plus puissant que Jésus-Christ, un putain de beau jour se pointe à le socialisme.
Non, il ne récuse pas la libre entreprise du petit patronat, il n'est pas la hantise. Avec une régulation saine, il évite les crises. Il chie sur la spéculation et la roublardise. Et toi, paysan des villes, rentre dans la ronde. Somme les profits bien quand il est bien sauver le monde. Femme de ménage au foyer, tu n'attends plus rien. Tu penses que ta vie c'est de la merde depuis que t'as trois gamins. Mais non, le socialisme a donné plein d'autres bien. Par exemple, à Mister Land de Lionel Jospin. Et si jamais un jour, tu as très très faim, regarde-le, tu auras moins faim.
Socialisme, socialisme, socialisme. Les yeux dans les yeux, regarde-moi socialisme, donne-moi la force. force d'avancer, force de progrès, force d'altruisme.
Le socialisme est trop beau et pour être vrai, le peuple pourrait-il enfin cesser d'être exploité?
Écoute la voix des sages, colle ton oreille sur le coquillage de l'espoir.
Partager avec les pauvres, mais que sont ces idées?
Et pour partager,
mais si je veux tout garder,
il sera plus heureux dans le partage.
Oh oui, je suis heureux, le socialisme a gagné.
J'aimerais tant être socialiste, mais j'habite en ville. J'aime pas trop vos manifs, moi je suis quelqu'un tranquille. J'ai peur de niquer mes bradas qui m'ont coûté 2000. Et je suis pas fan des merguez et des gens qui s'enfuient. Il te faut alors porter une veste en velours, des lunettes allongées, une écharpe en tour. Aller dans les marchés, acheter des paniers bio et dire à tous tes potes qu'il faut payer plus d'impôts.
Socialisme.
Et comme dit Dupont-Aignan sur BFM Radio, croire que le Parti Socialiste est capable de mettre dans la rue des lycéens, c'est franchement présumer de leur force. Celle-là, elle m'a beaucoup fait rire. À mon avis, elle est partie pour le prix de l'humour politique. C'était les rois de la Suède, socialisme. Donc ça veut dire que leur album est sorti, enfin.
Bah oui.
Parce que justement, il y en a une qui arrêtait pas de me demander. Mais c'est quand qu'il arrive ?
Le voilà.
Tu vas faire une heureuse là. Je suis pas sûr qu'elle écoute d'ailleurs.
Quand je suis à l'antenne, elle aime bien m'écouter après. Bon.
J'attends qu'elle me le demande le disque. On l'a reçu il y a 10 mois à peu près. Serge Pelé, dessinateur d'Orbital, qui est vraiment une série qui nous a vraiment plu, qui est vraiment d'un très 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 bon niveau, qui fait partie de cette vague de science-fiction franco-belge où on trouve Valérian, où on trouve je vais y arriver.
Sillage
et tous les autres.
Même s'il ne lit pas Sillage, il nous l'a dit.
Oui, il l'a dit. C'est pour ça que j'ai pas mis la chronique de Siège cette semaine. Voilà. Et c'est vrai, c'est-à-dire une science-fiction qui est capable de faire un scénario vraiment adulte, avec un graphisme qui se permet vraiment mille et une fantaisies, avec des floisons d'extraterrestres sur lesquels on se limite pas à l'anthropomorphisme et tout, et à des scripts vraiment convenus. C'est-à-dire vraiment, les extraterrestres peuvent avoir n'importe quelle forme. Et de ce côté-là, justement, il y a vraiment... c'est un excellent bouquin, c'est une excellente série et qu'on aime vraiment bien. Sylvain Rønneberg fait le scénario, quelque part, dans un pays au nord. Et Serge Pelé fait le dessin. Orbital, le tome 4, s'appelle Ravage et vient de sortir chez Dupuis. Et c'est la conclusion de l'histoire qui est initiée dans le tome 3 où des nomades extraterrestres, installés près de Kuala Lumpur, sont en conflit direct avec les pêcheurs locaux, qu'ils accusent de détruire un écosystème reconstitué à grands frais, mais surtout de perpétrer des meurtres particulièrement barbares. Mais les récents événements, surtout les préparatifs de la cérémonie prévue pour célébrer le retour de la Terre dans le concert de l'Office diplomatique international. L'humain Caleb tente ce qu'il peut pour calmer les émeutes racistes. Le Sanja Mezoke, qui est son binôme, attire les regards suspicieux et des dignitaires humains, toujours en liaison avec les sinistres événements qui avaient conduit la Terre à être mis au banc des mondes. Bref, le passif n'est pas encore soldé et n'aide pas à apaiser les esprits.
Thank you.
plus loin dans la galaxie, Nina remonte l'itinéraire des récupérateurs aliens nomades. Se pourrait-il que la cause de ces sanglants meurtres ait voyagé avec leur caravane à leur insu ? Le scénario est bien maîtrisé et envoyé, on reste scotché aussi par le graphisme hyper léché de Serge Pellet. Ronberg fait monter en expérience Caleb, mais celui-ci doit passer par des choix peu heureux ou honorables, comme des mensonges officiels, ce qui le fait finalement entrer dans un moule qu'il n'a pas forcément accepté. Et c'est justement ce qui s'appelle de la diplomatie, le besoin de calmer les susceptibilités, de minorer, voire d'oublier les exactions. Les aliens de Pelé sont toujours aussi tripants, mais là où le dessinateur se révèle, c'est qu'il est capable de mettre en scène des scènes dynamiques, comme un sport collectif, une émeute, une course-poursuite, tout comme des scènes de dialogue. Le rythme ne se perd pas, il y a une vraie profondeur de champ et il peut sans problème donner un rendu réaliste dans une scène de pluie battante ou de brume. Et ses planches sont à tomber, littéralement. Si se clôt un cycle, on sent que rien ne sera plus comme avant entre les protagonistes dans la prochaine mission. Orbital, le tome 4 s'appelle Ravage. Sylvain Ronberg et Serge Pellet, c'est chez Dupuis. Je vous renvoie vers l'interview qu'on a fait dans cette émission le 5 décembre dernier de Serge Pellet et surtout vers la version vidéo de cette interview qui est présente sur le site actuabd.com.
J'aime bien parce que t'as sur les premières pages, t'as une photo de l'atelier de Serge Pellet. Poste de pilotage d'Orbital 4, on a retrouvé un agent d'entretien mort dans la soute à crayon, il y avait un HB planté dans la nuque.
Bah, c'est un dessinateur, donc on va dire qu'il fait pas partie des dessinateurs ordonnés. Par contre, c'est clair que il est immergé dans son univers et waouh, c'est trippant. Il n'y a pas d'autre terme. Moi, je reste absolument furieusement fan de cette série. Une autre série de bande dessinée qui a un dessinateur immensément talentueux.
Dans le visuel trou le cul, c'est ça ? Un peu quand même.
Un peu. J'ai juste un problème, parce que quand je l'ai montré à des copains de nuit dans une vitrine, ça le fait pas parce que le visuel est en bleu sombre sur bleu sombre, donc ça le fait pas pour le tome 4. Mais ça reste vraiment. T'ouvres une page, t'es. Ah. Tu. Voilà, tu restes en voix, tu. Littéralement impressionné. Juan Diaz Canales est le scénariste et Juanjo Garnido est le dessinateur de Black Sad. Le tome 4 s'appelle L'Enfer, le silence. C'est sorti chez Dargo le mois dernier et ça reste vraiment la référence BD actuelle en niveau de qualité. On est dans la Nouvelle-Orléans, qui est l'une des villes les plus exotiques des États-Unis. C'est une ancienne colonie française. Il a accueilli les Cajuns déportés du Canada, les Noirs exclus de l'esclavagisme. Elle est un creuset de mélange de cultures étonnant. Le vaudou y côtoie le gospel. Et c'est ainsi qu'est né le jazz. C'est dans ce lieu en couleur que Black Sad a été appelé par un client. La Chapelle. Homme d'affaires devenu très 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 riche après une médiocre carrière musicale recyclée en producteur et vendeur de disques. Son prénom, Faust, semble avoir marqué son destin. Mais étant à l'article de la mort, et il a embauché Black Sad pour retrouver l'un des musiciens les plus doués de son catalogue, qu'est devenu Sebastian Littlehand Fletcher. Mais qu'est-ce qui a pu ruiner ainsi l'un des artistes les plus prometteurs de la ville, l'un des pianistes les plus hallucinants de sa génération. L'héroïne, la drogue a détruit sa carrière, son talent, sa famille. Est-elle la seule coupable ? Il a abandonné sa femme, son enfant, son public, bref, tout le monde lui en veut. Et quand son producteur le cherche désespérément dans un espoir de rédemption, alors que lui-même veut remonter la pente, pourquoi fuit-il encore ? Black Sad va y traîner ses moustaches, accompagné par son ami reporter Weekly. Trouve-t-on plus de musiciens de jazz dans les prisons du pays que dans les bars où les filles se découvrent à poils ? Les sorcières vaudou soignent-elles mieux les malades que le whisky ? Le dessin anthropomorphique, les couleurs riches et saturées. Et puis surtout la Nouvelle-Orléans, ville écrasée sous un soleil d'or, et propice aussi bien au carnaval qu'à des cauchemars. Black Sad est une série graphiquement exceptionnelle, servie par un scénario impeccable, et surtout aux sorties suffisamment rares pour nous mettre KO. Les clins d'œil musicaux, politiques, cinématographiques et animations abondent. Mais là où Diaz, Canales et Guarnido font très fort...
Guarnido.
Putain.
Allez, correction en plus. Ouais.
À chaque fois, je me fais avoir. C'est qu'on est tellement plongé dans l'histoire qu'on oublie que les protagonistes sont des animaux. Et c'est là-dessus que c'est vraiment une BD à tomber. Je tiens à signaler que Guarnido est un ancien animateur au studio de chez Disney à Montreuil. Et donc, tous ces personnages sont des animaux. Mais c'est pas du tout une BD pour enfants. Et là-dessus, ça a tombé par terre. Thomas, tu l'as peut-être lu, tu peux peut-être en rajouter ?
Oui, alors moi, j'ai jamais été transcendé par le scénario de cette série. Par contre, effectivement, au niveau du dessin, il n'y a rien à dire, c'est scotchant. Mais moi, le scénario, franchement, tu remplaces les animaux par des gens. Alors bien sûr, il est parfois fait allusion au fait que ce sont des animaux, parce que c'est pas juste une BD avec des animaux à la place d'humains. C'est à un moment donné, la Black Sad, il dit oui, moi je suis un chat et tout. Alors il parle aussi du fait que lui c'est un chien, lui c'est un chat, lui c'est un hippopotame.
Il est repêché dans le canal et il est repêché d'ailleurs par un renard et il dit je ne savais pas que les chats aimaient l'eau.
Oui, voilà. C'est vrai que le fait de que ce soit des animaux, ça participe aussi au caractère singulier de la bande dessinée. Et puis on voit que le caractère anthropomorphe des animaux, c'est juste béton tellement c'est bien maîtrisé.
Surtout, ça surprend énormément par rapport à un scénario qui se veut du polar noir.
Voilà. Alors par contre, au point de vue du scénario, c'est vachement... peut-être pas dans celui-là parce que t'as un retournement final aussi, le scénario est un peu plus élaboré, mais j'avais dans les deux premiers, surtout le premier, j'avais trouvé, tu remplaces les animaux, tu mets des humains, ça va quoi, c'était vu 100 fois. Ça se lit toujours avec autant de plaisir. Moi personnellement, j'ai un peu de mal, mais c'est juste au niveau du scénario, mais sinon, oui, c'est
quoi,
à tomber
par terre. Tu as un peu de mal ? Ah non, mais c'est parce qu'il faut que tu le relises.
Oui, alors par contre après, ce qu'il y a de rigolo, c'est que au début, tu as l'ambiance polar avec la fumée, le jazz, les boîtes un peu sombres, t'as des discussions entre personnages avec des volets fermés et tout, tu dis ouais ça va, le gars il maîtrise le clair-obscur, ok, c'est un peu comme le parrain, tu vois, il parle dans le noir, bon voilà, ouais bon le gars, voilà, il maîtrise. Puis après, t'as le mec qui sort, et là, t'as une immense pleine page avec le
carnaval.
Voilà, le carnaval, la manifestation avec des gens de partout. Et tous
déguisés, et les détails, c'est à la loupe qu'on les regarde.
Ouais, et en plus, t'as des couleurs de partout, et puis à un moment donné, t'as Black Sad qui perd un gars qu'il était en train de courser, le gars, tu le vois en bas à droite.
On joue à Où est Charlie, Où est Black Sad.
Et puis Black Sad, tu le vois aussi, alors le mec, il maîtrise à la fois le corps obscur, et puis tourne la page et puis ouais c'est bon les gars je maîtrise aussi les scènes de jour quoi, ok d'accord, mais sinon voilà c'est en plus c'est pas juste il maîtrise pas juste l'anthropomorphisme des animaux, il joue sur la matière, t'as le trait qui est nerveux, il est expressif, enfin voilà c'est pas juste propre photoshopé, non c'est pas du tout ça, c'est voilà c'est tel que troué, voilà c'est tout quand tu dis ça.
Merci. Et donc la régie qui se fout de ma gueule et qui me dit qu'il est midi 29 minutes et 35 secondes, donc la pause pub après la pub.
On n'enchaîne pas les volcans, une exposition proposée par Point de Fuite Toulouse et Pavillon Project Montréal dans le cadre du festival le printemps de septembre à Voltex au Pont Neuf en partenariat avec Radio FMR. Jeudi 14 octobre, 20h30, 22h, le collectif La Mobilette présente une exposition performative Autonomie. Vendredi 15 octobre, 21h, 22h, Gérald Kurdlan, This is the Hello Monster, la solidité des choses numéro 1,
de la gymnastique moderne, un artiste en résidence. Samedi 16 octobre, Codex, deux regards sur les formes contemporaines de l'édition en art et design par Hypertext et Many Stuff. 19h, rencontre avec Hypertext et Many Stuff plus Guillaume Pinard, l'espace des arts, Bat Edition. 20h30 de Crystal Maze dans les dédales de l'imprimé par Office ABC, Jérôme Dupéra, Phil Baber et le Bureau du Doute. Et enfin, dimanche 17 octobre, le salon de l'édition indépendante. C'est en partenariat avec Radio FM.
Le supplément week-end sur Radio Éphémère. Avec Ella Elsa Fitzgerald, That Old Black Magic.
That old black magic's got me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. And when that elevator starts its ride, dialing down and down I go. Round and round I go like a leaf. It's caught in the tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm aflame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. You're the lover, you're the lover, you're the lover, you're the lover I.
Elsa Fitzgerald, That Old Black Magic, ça fait hyper longtemps. Hein. Le DVD percé par une licorne malade au fin fond d'une mine en Chine vous est chroniqué par Ultimatum.
Et zoé, c'est parti.
Je sens que c'est les rééditions pour les 25 ans.
Et oui, aujourd'hui nous allons parler des jolis navires avec des gens qui sont, tu sais, quand, dès qu'ils sont à terre, ils ne pensent qu'à aller dans les cieux. C'est tellement beau, les nuages avec le soleil, les rayons de soleil qui filtrent à travers.
Et... Dis, j'ai amené un accessoire, un basset là, qui est en train de piaffer d'impatience et de bouffer les inrocs.
Oui, il est en train de bavouiller partout en plus. Alors voilà, il sera question d'avions et de pilotes passionnés aujourd'hui avec Skycrawlers, le de Mamoru Oshii.
Ah, je me disais bien qu'il y avait un basset.
Produit par les studios Production Higé. Sauf que vous dites, mais attends, c'est des avions, les gens qui sont obsédés par le ciel et tout, et qui sont passionnés, c'est pas vraiment du Oshii. Eh bien, vous avez raison, car ce n'est pas du tout ça. Alors, en pleine guerre aérienne entre Rostock et Lauterne, tu peux le laisser. Le pilote d'avion Kanami vient d'intégrer une base dirigée par la belle Kusanagi. Tiens, Kusanagi. Très vite, Kanami regrette de ne pas avoir pu rencontrer son prédécesseur, un pilote nommé Jinro. Jinro. Et Jinro est-il mort ? Disparu ? Les autres pilotes sont muets sur le sujet. La particularité de ces chevaliers du ciel, ce sont des Kildren, des êtres ne pouvant vieillir, prisonniers de corps de jeunes adultes. Progressivement, les langues commencent à se délier et nous en apprenons plus sur cette guerre d'un genre très 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 particulier. Donc voilà, donc on est chez Mamoru Oshii. Et là, en fait, c'est un film de 2 heures, un film d'animation traditionnel. C'est pas du tout Tachigichi dont j'avais parlé avec des photos animées et tout. Non, non, c'est pur film d'animation, dessin animé, un petit peu de scène 3D pour les joutes aériennes. Mais surtout, ce sont des pilotes qui se font grave chier.
Avec Oshii, c'est étonnant.
Donc voilà, donc alors voilà, on dit Mamoru Oshii, ça veut dire que on a le Bassé, on a alors il faut savoir que c'est le champion de l'autocitation. Hein. Alors on a le Bassé, on a un scénario imperméable, enfin il délaisse un petit peu le scénario imperméable, mais on a des personnages un petit peu déshumanisés. On a alors attendez, je regarde mes notes parce que je sais plus où je l'avais foutu en fait tout ça. Alors on a les infographies en ton ocre, on a les scènes contemplatives, on a Kenji Kawai à la musique avec les longues nappes de synthé où on regarde le ciel en réfléchissant à ce qui a été dit avant. On a pas beaucoup de dialogue pour une fois, d'habitude c'est très 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 bavard, et on a plus du tout la surabondance de citations littéraires, donc ça va, il y a quand même du nouveau. Alors Skycrawlers, je vais pas trop en dire non plus parce que... Alors, j'ai amené le DVD. Si vous voulez me l'emprunter, je vous déconseille fortement de lire ce petit résumé ici, car une,
oui, il est faux. Parce que, un, ça c'est pour JB, pour du sport.
Ben, première raison, il dévoile tout. Deuxième raison, il y a du faux dedans. Donc, voilà, il faut pas le lire.
Voilà, encore le coup du résumé de DVD avec un fondu magistral enchaîné. Un fondu enchaîné magistral.
Fondue enchaînée magistrale.
C'est une blague, c'est à propos de 2001, l'Odyssée de l'espace, la scène où tu as les singes qui balancent en l'air l'os.
Ah oui, mais c'est...
Et ensuite, ça passe à un plan d'une arme orbitale, et sur le DVD, sur la jaquette, il y a marqué un fondue enchaînée magistrale, alors que c'est un cut.
Oui.
C'est l'inverse.
Voilà. Donc déjà, je disais que c'était le champion de l'autocitation, donc ceux qui connaissent un peu la carrière de Oshii, vous avez vu que les noms de Kusanagi et de Jinro, c'était pas innocent non plus. Oh, Innocent, tiens, un autre film qu'il a fait, Innocence. Alors, Kusanagi, c'est le nom du major dans Ghost in the Shell. Jinro, c'est
un copain des réalisateurs.
Bah, Jinro, c'est juste Jinro, la brigade des loups, film qu'il a produit et scénarisé, dont il a supervisé la production du film. Oui, Xavier, t'es pas en forme. dans ce film Skycrawlers, ce film est un petit événement, puisque je l'avais dit, c'est le retour de Oshii au dessin animé traditionnel. C'est un film qui a été présenté au Festival de Venise en 2008. Comme les films récents de Oshii, enfin les films, tous les films qu'a fait Oshii, il faut être en forme avant de voir le film, parce que déjà, je l'ai dit, il est assez long.
Je vais me coucher.
Il fait 2 heures. Et c'est un film où les personnages passent beaucoup de temps à se regarder dans le blanc des yeux, à errer dans les rues d'une ville qui est indéfinie et qui fonctionne presque en huis clos. Quand ils sont à la base, ils errent aussi dans les locaux, ils parlent à des gens, il y a qu'un ami qui demande « Mais mon prédécesseur, pourquoi il m'a pas présenté son avion ? Il est mort ? Il n'est pas mort ? Qui l'a tué ? Où est-il ? Y a-t-il disparu ?» Et à chaque fois qu'il pose la question, les gens lui répondent par une autre phrase qui n'a rien à voir avec sa question. Tu te dis « Oh, c'est bizarre, il y a un passé peut-être trouble, il ne faut pas parler de son prédécesseur. Il ne faut peut-être pas qu'il sache qui était son prédécesseur aussi. Y aurait-il des liens avec Kanami et avec le précédent pilote ?» Donc ensuite, on a les premières joutes aériennes, donc là tu prends ta baffe, même si le mélange 2D-3D est un peu particulier, mais on s'y fait assez vite. Les joutes aériennes sont super efficaces. Mais tu sens pas vraiment comme dans Top Gun dont il était question tout à l'heure, des pilotes qui sont pressés de revenir dans le ciel. En fait, ils prennent place dans le cockpit, ils volent, ils atterrissent et ils recommencent à lire les journaux, à errer, à aller au bowling. On dirait presque des pantins. Tiens, Oshii est fasciné par les poupées et les pantins, c'est pas vraiment innocent. Mais en fait, quand ils vont à la ville et qu'ils arrivent parfois à coucher avec des prostituées, ben, même là, c'est filmé, tu vois l'avant et l'après, et puis ça c'est fait, il fume une clope. Après, il revient dans la base, et puis il retrouve son pote qui plie toujours de la même façon son journal.
Tu serais pas en train de me décrire un film français, là ?
Bah non, parce que le film français, ça se passerait dans un appartement parisien avec, avec la maîtresse, le mari, l'amant, voilà.
Et le placard Ricard.
Voilà. Donc c'est pas vraiment ça, mais voilà. Alors, ce qui frappe pas forcément, mais tu te dis, tiens, il y a des informations qui m'échappent, c'est que ils ont aucun passé. Ils parlent jamais de qu'est-ce que tu faisais avant d'être pilote. Mais tu as l'impression qu'ils en parlent pas, mais aussi peut-être parce que soit ils veulent pas en parler, soit ils le savent pas non plus. Bizarre. Alors déjà, le fait que ce soit des children, des jeunes adultes qui ne peuvent pas vieillir, tu l'apprends pas au début, ça. Tu l'apprends au détour d'une conversation après, tu sais. Ah oui, d'accord. Tu apprends aussi que Cousin Nagui, la patronne de la base, a une petite sœur. Après, tu apprends que c'est pas sa sœur, c'est sa fille. Après, mais qui est le père? Qui est le père? Il y a le héros qui demande, mais qui c'est qui le père? C'est qui le père de votre enfant et tout? Et ils répondent jamais. On se dit, ouh, ça fait beaucoup de questions en suspens, mais en même temps, tu sens que les personnages, ils s'en foutent aussi. C'est-à-dire qu'ils posent la question, on leur répond pas à la question. Alors le mec, il est aux ordres, donc il va pas non plus insister, mais tu sens pas qu'il va péter les plombs en disant, bah, on me dit jamais rien, ou qu'il va essayer de la nuit d'aller voir dans les dossiers pour savoir. Non, non, c'est juste un gars qui est là, qui va piloter, qui juste parce qu'on lui demande de faire ça. Alors c'est bizarre. Et en fait, tu prends vraiment conscience de la dimension de pantin des personnages, mais c'est filmé de telle façon à ce que tu te poses pas trop la question non plus, parce que les scènes quotidiennes où ils parlent un petit peu entre eux et tout, ça te fait quand même passer la pilule, c'est pas juste des prétextes. Alors évidemment, encore, on est dans un dessin animé de Mamoru Oshii, donc la mise en scène est superbe. Et puis, il y a un soin particulier dans l'animation qui est porté aux gestes quotidiens, c'est-à-dire que le mec qui va plier son journal, il y a une attention particulière qui va être portée à la lumière sur le journal, il va plier, il y a le geste, et vraiment c'est à montrer dans les écoles d'animation, juste le geste du gars qui plie son journal, il va le plier avec le côté du pouce, il va marquer un temps de pause entre le fait qu'il plie son journal en deux et ensuite en quatre. C'est coté à chaque fois parce que c'est une scène qui va revenir plusieurs fois et ils vont faire un copier-coller, sauf que narrativement, le contenu du journal va apporter une information sur ce qui se passe en dehors de la base aussi. Le texte dans le journal sera différent. Et tu te dis, mais tiens, finalement, c'est pas si anodin que ça. La répétition des gestes, en fait, va participer au fait que le personnage, alors soit c'est quelqu'un qui est super ordonné et classique et qui a plein de tocs, soit ça va vouloir dire autre chose. T'as aussi le gars qui est obsédé par la bière. Après une mission, il va se boire 2-3 bières, il va toujours ouvrir le frigo d'une certaine façon. Alors évidemment, ils vont faire des économies sur l'animation, c'est toujours la même scène. Mais c'est comme dans Evangelion, justement, l'économie de moyens participe aussi au côté routinier. Alors, une heure passe, et puis finalement, c'est toujours le train-train quotidien. Et puis au fur et à mesure, tu te rends compte du caractère particulier de la guerre. C'est pas une guerre comme les autres, et puis tu te rends compte pourquoi il n'y a jamais de dommages sur la ville, pourquoi à la base il n'y a jamais trop de sentiments d'urgence ou de dégâts ou de dommages collatéraux. Et alors je vous dirai pas ce que c'est cette guerre, mais c'est une information qui est donnée au détour d'une conversation de nuit entre deux personnages qui fument une clope, et c'est balancé comme ça. Et en fait, le personnage, l'un des deux personnages balance à l'autre cette information-là, on dirait que l'autre l'avait oublié ou qu'il s'en fout, mais en fait, l'autre, il rebondit même pas dessus. Voilà, comme je disais, c'est les dimensions de Pantin, c'est des gens qui acceptent l'information comme ça et qui se contentent juste de vivoter dedans. Mais quand je vous dis ça, c'est pas du tout pour souligner que le film est chiant, c'est juste que c'est particulier.
Il faut faire attention, déjà, être en bonne condition. Et
voilà, il faut juste être entre bonnes conditions, Oshii se démerde pour pas donner un film chiant quand même. Voilà, c'est un truc sur le quotidien, sur la répétitivité, mais c'est pas chiant. Et c'est ça que c'est le tour de force du film, parce qu'après, le film Skycrawler, c'est quand même un film mineur dans sa filmographie, il n'a pas du tout la portée soit philosophique de Ghost in the Shell 2, soit le côté punchy des scènes d'action à tomber par terre du 1. Les scènes d'action sont vraiment anecdotiques, les scènes d'avion. Voilà, c'est un film quand même à voir si vous aimez l'univers de Mamoru Oshii et si vous n'êtes pas contre des longs dessins animés de 2 heures où il se passe quasiment rien, mais c'est pas vraiment hypnotique non plus parce que il a fait mieux dans le genre, mais quand même on voit toujours la passion que nourrit ce mec pour les avions, le côté old school aussi. Les avions, c'est un mélange entre des vieux avions mais des avions fictifs aussi, puisque c'est une uchronie, c'est un monde alternatif. Moi, franchement, ce film, il vaut le coup. Je suis content de l'avoir vu. C'est pas peut-être un film que je verrai souvent, mais c'est un film à voir si vous aimez les joutes aériennes et si vous aimez particulièrement l'univers de Mamoru Oshii. Voilà ce que je pouvais dire sur ce film sans trop en dévoiler non plus. Ben voilà, j'avais préparé un autre morceau si tu veux le mettre maintenant. Voilà, donc plusieurs indices sont disséminés à droite à gauche dans le film, mais ils sont suffisamment discrets pour pas que vous vous posiez la question, mais dans quoi on me balade, dans quelle histoire on me balade, voilà. Skycrawlers, nouveau film de Mamoru Oshii, produit par le studio de production Ige. Indéniablement un film à voir, mais peut-être que le souvenir ne sera pas aussi marquant que les autres films d'Oshii.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent, les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça, c'est la loi des séries.
Bon, tu dis rien là.
Non, non, c'était le grand concours de Starring, on se regarde dans les yeux sans rien dire. C'est parce qu'une musique de western c'était un peu convenu pour se faire un duel.
Ouais, d'accord. C'est juste pour vous signaler dans le domaine du cinéma, bien la présence
et la conférence ce soir à 19h30 à la Cinémathèque de John Boorman.
Il y aura John Boorman à Toulouse ?
Ouais. Il y est déjà d'ailleurs. Hein. Et donc c'est aujourd'hui dans le cadre d'une rétrospective qui lui est consacrée à la Cinémathèque de Toulouse jusqu'à fin novembre me semble-t-il. Vous pouvez voir l'ensemble de sa filmographie qui est très intéressante hein, de toute façon. Il n'y a pas de problème.
Éclectique
et qui est étalé dans quand même trois décennies quoi hein, c'est trois même voire quatre décennies
non mais cite ses œuvres parce que sinon
il vient et il présente donc Excalibur qui est certainement le film le plus connu de lui. On pourrait également citer Délivrance, on pourrait également citer La Forêt d'Émeraude,
le général Rangoon,
Open Glory, qui cite parmi ses favoris. Hein, si, c'est l'histoire d'un jeune gamin pendant la Seconde Guerre mondiale avec les bombardements, les trucs et tout, quoi. Enfin bon, Londres et tout ça, quoi. C'est pas mal, vraiment sympa. Enfin, de toute façon, il a toujours été plus ou moins en décalage. À chaque film, il reprenait un style différent. Il faisait pas mal de trucs très intéressants de ce côté-là. Et
c'est lui
également...
qui a fait le tailleur de Panama aussi, non? Avec Brosnan.
Peut-être. Il y a également Point Blanc hein, qu'il a fait avec Lee Marvin. Et il est donc à Toulouse et il est à la Cinémathèque. C'est ce soir à partir de 19h30, donc avec sa conférence et sa présentation de son film Excalibur, le début d'une rétrospective à la Cinémathèque de Toulouse jusqu'à fin novembre avec l'ensemble de sa filmographie de John Boorman donc. Alors côté série c'est pas extraordinaire sinon qu'il y a beaucoup de séries, des saisons inédites qui commencent à être diffusées cette semaine avec tout d'abord Californication, enfin c'est le créneau série deuxième partie de soirée du vendredi sur M6 à partir de 23h10 donc la troisième saison de Californication avec des guest starring intéressants, Diane Fard qu'on a vu de Desperate Housewives, Peter Gallagher également, Kathleen Turner, Ed Westwick qui est apparu dans Gossip Girl. Tout ça donc c'est à partir de vendredi prochain 23h10 sur M6 et c'est suivi après les deux épisodes inédits de cette saison 3 par début de saison également inédite, c'est My Name is Earl. Alors là on va encore pousser une grosse gueulante en disant que bon, la programmation de Earl c'est vraiment une honte, hein, on n'a jamais vu ça. Alors que ça pourrait
J'ai pas la musique du loto.
Ça pourrait très bien être diffusé en première partie de soirée et tout, parce que ça va. Quoi,
c'est,
ça
oui, même, c'est plutôt mignon, c'est gentil.
Ça
tout
reste
ça.
Quand même vachement light. Hein,
c'est pas 24 ou New York Unité Spéciale.
Non, voilà, c'est un petit peu dans
c'est
le.
Beaucoup plus familial.
C'est dans le même créneau que Malcolm, par exemple, des trucs comme ça.
C'est diffusé à 20h aux États-Unis.
Donc il n'y a pas de problème, et pourtant nous on se les tape après minuit. Donc c'est la saison 4 inédite, donc juste après. Cette saison 3 inédite de Californication le vendredi sur M6. Sinon, une bonne rediffusion, ça vaut le coup. Si vous avez loupé cette série en 9 épisodes seulement, Generation Kill, créé par David Simon. Donc, David Simon qui nous a fait The Wire, qui nous a fait Homicide, pas mal de super bonnes séries. Et donc, c'est l'occasion de re-suivre ce truc parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas à chaque épisode une histoire et puis basta, on s'en fout. Non, là, c'est justement le cheminement et la progression du cheminement de ces différents jeunes héros, qui sont engagés dans un conflit, quoi, à l'Irak en l'occurrence, et comment ils arrivent à se démerder. Enfin bon, c'est assez bien foutu quand même. C'est sur RTL9 à partir de lundi prochain 22h20, donc la rediffusion de cette série Generation Kill. Sinon encore de l'inédit avec ce soir sur France 3 à 21h30 Enquête Réservée, la saison 2 aussi, là, c'est la série avec Jérôme Anger, Docteur Sylvestre en personne. Donc c'est la saison 2 inédite ce soir sur France 3 à 21h30. Inédit également, c'est demain à 17h10. Alors c'est un horaire un petit peu bizarre, mais enfin bon, on va pas chipoter. De la nouvelle et dernière saison, c'est la 7e saison de Cold Case. Lily Rush qui va bientôt plier va tirer sa révérence. Donc c'est sur Canal+. Demain, à partir de 17h10, la 7e saison de Cold Case. Et il y a également là, c'est une rediffusion, mais c'est plutôt intéressant à regarder pour les gens qui avaient loupé ça. il y avait un avant-mentaliste pour Simon Baker qui était le protecteur. Dans une série dans laquelle il interprète un avocat qui fraye plutôt du côté des gens qui sont friqués mais qui ne gagnent pas leur argent dans de bonnes conditions, on va dire, plus ou moins légalement. Et donc, pour se racheter au niveau du barreau, c'est-à-dire c'est sa dernière chance, soit il fait ça, soit il se fait virer du barreau, donc il peut exercer sa profession d'avocat. Il doit aider des causes nobles, les enfants, les handicapés, des trucs comme ça. Donc, il doit accepter des affaires de ce style pour pouvoir se racheter. Donc, c'est le rôle qu'interprète Simon Baker avec à ses côtés Dabney Coleman. C'est dû à la patte de David Hollander qui a créé cette série, Le Protecteur, qui a démarré en 2001. Donc, avec Simon Baker, c'est sur Canal Jimmy jeudi prochain à partir de 20h40. Un petit peu de musique à présent pour célébrer un mort récent.
Parce que tu m'as l'air particulièrement éteint là.
Non, t'es malade là.
Hein?
T'as pris froid?
Ouais, on peut dire ça comme ça quoi.
Non, parce que là, du sport, il arrive à être plus crevé que moi, ce qui est un exploit.
Non, non, tu l'as pas raconté. Hein. Donc, du sport m'a dicté. Hold on, I'm coming. C'est le chanteur et Solomon Burke. Non, ouais. C'est l'inverse.
Oui, oui. Oui, c'est ça, ouais.
Bon, allez, raconte. Raconte-le.
Et raconte.
Allez, Duce.
Non, parce
allez,
que non, ça n'a pas vraiment de rapport avec Solomon Burke. Parce que la chanson qu'il interprète, c'est une chanson de Isaac Hayes et David Porter quand ils étaient chez Stax. Et à l'origine était destinée à Sam and Dave d'ailleurs, et en fait elle est née tout simplement d'une séance en studio où David Porter était aux toilettes en train de faire sa commission et Isaac Hayes lui demandait mais qu'est-ce que tu fais, où est-ce que t'en es quoi, et l'autre lui a répondu hold on I'm coming, donc ça lui a donné une idée, une accroche pour créer une chanson qui est devenue cette chanson donc là interprétée par Solomon Burke, parce que ce grand chanteur de soul, de gospel, nous a quittés. C'était le week-end dernier.
Ouais, et c'est lui donc qui a fait le morceau le plus connu des Blues Brothers et plein d'autres choses.
C'est
un grand prêtre de la soul.
Il a commencé dans le début des années 60 et ensuite il a plus ou moins évolué dans le funk. La musique du moment dans les années 70, dans les années 80, il a fait beaucoup d'albums de gospel parce qu'il est un petit peu retourné
en religion.
Du côté religieux, on l'appelait le preacher parce que bon, ben, justement, il donnait des homélies dans des vraies églises et, où il chantait des chants de gospel et tout ça. Et là, ben, il nous a quittés en plus d'une façon assez bizarre puisque bon, ben, il est mort officiellement en Hollande, mais en fait, il est mort dans l'avion qui l'amenait justement en Hollande pour une série de concerts à Amsterdam. Et donc, paix à toi, Solomon Burke, dont on écoutera un autre morceau juste après. Alors au niveau des films, ben il y a pas grand chose quoi, donc un pot pourri.
J'avais une autre musique pour les films.
T'as des films pourris.
Ouais. Si on veut. Non, c'est un peu tout quoi, de toute façon quoi.
Attention.
Ouais, mais tu me laisses quand même le Solomon Burke d'après quoi.
Oui.
Ok, y a pas de problème.
CD à chaque fois, donc c'est un petit peu agaçant, c'est tout.
Ouais, non. Donc, t'as bien compris.
Les films pourris. Samedi soir, quelque part dans une maison, papa du sport dit « C'est moi qui ai la zapette ». Les enfants ont peur. Madame Balise, le programme télé Moukt.
Vas-y. Désolé.
Non, mais samedi soir, de toute façon, à partir de 22h25, il y a Breaking Bad sur Arte, donc...
Ah oui.
On sait.
Série monstrueuse.
On peut le dire. Ce soir, sur RTL9, un excellent western. Non, c'est trop de dire ça. Il n'est pas excellent, mais il est pas mal. Les quatre fils de Calty Elder de Henry Hathaway en 65 avec John Wayne, Dean Martin, Earl Holliman et Michael Anderson Jr. Une histoire de quatre frangins qui vont venger la mort de leur mère, Calty Elder justement, et qui vont un petit peu pratiquer le nettoyage par le vide dans la ville dans laquelle ils se sont rendus pour justement enterrer leur mère. Voilà le pitch, on va dire, de ce film de Henry Hathaway sur RTL9, c'est ce soir à 20h35. Sinon, sur AB1, à 20h40, redécouvrez Marc quand il était jeune, quand il était beau, quand il était torse nu.
Marc Hamill ?
Épilé.
Marc Harmon ?
En pleine forme, te faisant un latéral facial de toute
Marc Dacascos.
Exactement, oh. Marc Dacascos. En 96, dans Fugue de James Wong, avec à ses côtés Kadim Hardison.
Moi, je ne veux plus entendre parler de James Wong. Il a fait un film qui n'existe pas, qui s'appelle Dragon Ball Evolution.
Mais c'est pas lui qui a aussi fait un Destination Finale.
Tout à fait. Et c'est lui aussi qui travaillait dans la production X-Files aussi.
X-Files, bien sûr, avec Chris Carter. Hein.
Voilà, souvenez-vous.
Voilà, souvenez-vous. Mais Marc Dacascos, en 96, c'était encore bien, quoi.
Il n'avait pas d'impôts à payer.
Ça, c'est ce soir, donc sur AB1 à 20h40, Fugue. Demain, sur NT1 à 20h35, un homme à part de F. Gary Gray en 2002 avec Vin Diesel,
ouais.
Lauren Stett, Timothy Olyphant et Jacqueline Obradors, qu'on a aperçu dans la série Dragnet avec Ed O'Neill. Si, rappelle-toi.
Dont ils ont gardé une partie de l'accent latino d'ailleurs dans la VF.
Mais oui, parce qu'il y avait également l'autre, hein, de toute façon.
Oui.
Donc demain, suivez surtout la deuxième partie de cet excellent documentaire qui s'appelle Afrique au pluriel, c'est sur la 5. Demain, France 5 à 21h30, c'est la deuxième partie, donc la période 45-64, l'ouragan africain, la suite de cette saga sur un peu plus de deux siècles, on va dire sur deux siècles de ce que sont devenus l'ensemble des pays colonisés en Afrique. Alors, comme ça se veut très exhaustif, on aborde l'ensemble des pays du continent Afrique, donc avec leur historique. Alors ça peut paraître un petit peu touffu parce qu'on part d'un endroit à un autre et tout, il n'y a pas tellement de liens. Si le seul lien qu'il y a, bien, c'est le lien temporel, à savoir ce qui se passe dans le monde, ce qui provoque ou ce qui induit bien les comportements dans l'Afrique, en dehors de l'Afrique, à cause de l'Afrique, c'est assez finement expliqué de toute façon. Il y a un super travail de recherche au niveau de l'historique, mais également au niveau des documents filmés ou des documents d'époque. Là, c'est vraiment très très bien foutu de toute façon, quoi. Ça vaut le coup. Donc c'est demain soir sur France 5, relégué à la deuxième partie de soirée à 21h30. Afrique, donc deuxième partie, le documentaire de Alain Ferrari, l'épisode 2 de 1945 à 64 s'appelle L'ouragan africain. Sinon sur TCM, demain à 20h40, une bonne comédie musicale sur un bateau vapeur, ceux qui remontaient le Mississippi, souvenez-vous, le bon temps des colonies, comme disait l'autre, Showboat de George Sidney en 51, avec Catherine Grayson et surtout Ava Gardner. Ou alors pur, du dur, du tatoué et du sanguinolent avec ce film italien des années 70 sur la chaîne Polar, demain à 21h, Bracelet de sang de Umberto Lenzi, avec Thomas Millian, Joseph Cotten, Maria Flore et Ida Galli. Sinon, sur Orange Ciné Géant, il y a une idée qui est très intéressante, c'est de se taper, là il faut avoir le temps, il faut avoir les chips, il faut avoir ce que vous avez envie de boire sans problème, parce que ça dure toute la soirée et une bonne partie de la nuit. C'est la diffusion des deux super productions hollywoodiennes qui s'appelle Ben-Hur, la première
oula, avec après le tour du sport. Oula,
tout c'est d'abord, le... c'est à 20h40 le Ben-Hur de William Wyler en 59, 11 Oscars, 3h30 de film, vas-y,
en Technicolor.
Et les petites jupettes, t'en as pour ton argent. Et c'est suivi à 1h10 du matin, donc, puisque le Ben-Hur de Wyler fait quand même 3h30, à 1h10 du Ben-Hur de Fred Niblo, l'original de 1925, muet, avec qui pour remplacer Charlton Heston? Ramon Navarro, le chéri de ces dames. Trop beau.
Mais bon, lui aussi, je crois que le Ben-Hur de 1925, c'était... je crois qu'il est assez long. Ouais.
Oui, il dure 2h05. Et en plus, c'est une super production avec je sais pas combien de figurants. Enfin bon, bref, Wyler et puis la Warner, je crois, ont voulu dépasser justement le Ben-Hur de Fred Niblo, justement, pour avoir encore plus de face, plus de... Enfin, c'est dans cette idée-là que tu as été trouvé le deuxième.
Il y a eu la même chose avec les 10 commandements, c'est-à-dire, oh, il faut qu'on fasse oublier le précédent film qui s'appelait Les 10 commandements. Ouais, c'est moi qui l'ai réalisé. Non, mais justement...
Donc, tout ça...
Deux cas, on met Charlton Heston à la
place. Tout ça, donc, c'est sur Orange Ciné Géant, c'est demain soir, à partir de 20h40, la soirée, la nuit, Ben-Hur. Sinon, lundi, quelques daubes avec... Si vous avez loupé... La soirée de Dob d'il y a une quinzaine de jours sur NRJ 12. Une petite rediff dans l'ordre, s'il vous plaît, avec tout d'abord l'attaque des primates de Nelson McCormick, où Ron Perlman il tombe sur des babouins mutants au large d'une île du Mexique, alors qu'ils sont venus rechercher je sais pas quoi, de l'argent, de la drogue, enfin on sait pas.
Les babouins
suivi, des babouins mutants. Attention.
Ils font de la drogue, waouh.
Ouais. Et non, c'est pas eux qui ont planqué la drogue. Ah. Et à 0h20, méga piranha, souvenez-vous de cet énorme piranha qui continue à gonfler et qui devenait aussi grand qu'une girafe quand il atteignait les côtes de la Floride. C'est le méga piranha d'Eric Fosberg en 2010, donc diffusé juste après l'attaque des primates à 0h20. C'est lundi sur NRJ 12. Sinon, il y a quand même du bon lundi avec sur Sci-Fi à 20h45 le Sin City de Roberto Rodriguez et tous les autres.
Et Frank Miller.
Et d'ailleurs, j'ai lu que il y a un 2 qui devait être en tournage, je sais pas quoi.
C'est un serpent de mer, oui.
Mais qui voulait que Bruce Willis y revienne. Mais et comme il est mort dans le premier, donc il va falloir qu'il le ressuscite. Enfin bon.
Parce qu'en fait, le film Sin City lui-même est en plusieurs. Enfin, casse dans la chronologie. Et la BD elle-même, justement, joue sur cette chronologie qui est éclatée. Et tu as un nexus central qui est la boîte de striptease.
Oui, le truc central, c'est que la boîte de striptease où. Non, pas de. Ouais, de striptease où danse Jessica Alba, en fait, c'est une espèce de scène uchronique où tu croises Marv qui est mort dans le premier segment et tu. En fait, les trois personnages principaux des trois segments se croisent là, mais en fait, ils n'ont pas à se croiser puisque ce sont trois histoires distinctes. Et le truc, c'est qu'ils veulent faire deux suites, dont la deuxième, c'est selon moi le meilleur album de la série. C'est Dame to Kill For avec Angelina Jolie dans le rôle de la femme fatale. Et le 3, ce serait une histoire, enfin des histoires originales pondues par Frank Miller. Alors, est-ce qu'il va les dessiner avant ou pas? Ça, on sait pas. En tout cas, qui serait faite exprès pour le film. Voilà, mais donc si Bruce Willis revient, il n'y a pas besoin de le ressusciter.
Ouais, mais Bruce Willis, là, il a un emploi du temps chargé. Il a un Die Hard 5 pardon, à faire. Et
j'ai pas entendu ça. Die Hard 5, si, c'est en préparation.
Ah ouais, ça a été signé cette semaine.
Ah bah, ce serait bien que ce soit John McTiernan qui revienne.
Il a dit qu'il aimerait bien aussi en faire un autre après.
Ouais, mais bon, McTiernan, merde. McTiernan aux manettes.
Bah oui, bah oui. Sinon, mardi, sur 13ème rue, la terreur nucléaire de Jonathan Cheshnik en 2004 avec Bruce Greenwood, Leslie Hope, Arnold Woslow, James Rimar. C'est du lourd, c'est du costaud, c'est du tatoué.
Et c'est de mardi, l'air bouchienne.
Mardi, sur Ciné-Cinéma Classique, un western avec des jeunes dedans, La Fureur des Hommes de Henry Hathaway en 58. Avec Don Murray, Diane Varsi et Dennis Hopper. Il était jeune à l'époque, et beau et magnifique. Sinon, mardi également sur Orange Ciné Choc, tu l'as programmé, j'en ai gardé un excellent souvenir, Sukiyaki Western Django de Takashi Miike. C'est pas mal,
yes.
Ça vaut le coup. Hein, franchement, et avec même un petit featuring vachement sympatoche d'un certain Quentin T.
Oui.
Dont on ne citera pas le nom parce qu'il est vachement connu.
C'est
quand
un western japonais où les japonais parlent
sous
en anglais.
La neige. Sous la neige. C'est magnifique. C'est très beau. C'est ce que Takashi Miike peut faire quand il est capable de faire des bons films.
Des films normaux, quoi.
Des films normaux, on va dire. Pas trop azimutés. Et là, vraiment, ça vaut le coup.
Non, on arrête de dire du mal des jeunes.
Non, 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 en plus, il soigne la ligne et tout. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est pas un porte-nawak, ce mec, quoi. Quand même, quoi. Donc c'est sur Orange Ciné Choc mardi prochain, Sukiyaki Western Django, mercredi sur 13ème rue. Bonne rediff, là c'est sur 13ème rue, ça avait été diffusé sur Arte, c'est les Valander dans la série Kenneth Branagh qui commence à être rediffusé. Oui. Mercredi prochain, le guerrier solitaire, hein, c'est celui où on voit une nana qui se crame la gueule dans un champ de maïs au début.
Ouais, scène assez, assez latente et tout, et on a ce moment choc qui arrive.
Voilà, donc c'est mercredi prochain sur 13ème rue, Valander à 20h40.
Très, très bon.
Jeudi sur Paris Première, Sierra Torride de Don Siegel. Non, non, ce n'est pas un film érotique, c'est un pur western. C'est le couple avant Dirty Harry, 2 ans avant Dirty Harry, le couple Don Siegel, Clint Eastwood, Shirley MacLaine, Emmanuel Fabregas, c'est Clint Eastwood qui arrive, c'est un espèce d'homme de main et tout, quoi, et puis il va défendre une espèce de petite ville comme ça contre les exactions des grands propriétaires terriens. Et pour ça se passe plus ou moins au Nouveau-Mexique, puisqu'il n'y a pratiquement que des Mexicains ou des autochtones qui parlent avec l'accent comme ça. Mais c'est vraiment très très bien, c'est un bon petit western qui se regarde vachement bien. Sierra Torride donc jeudi prochain sur Paris Première. Sur 13ème rue, 20h40, Killing Point, un inédit. Tu sais, c'est un DTV là dont nos amis Jean-Claude Van D et Steven S d'Abreuve. Et que tu sais qu'ils sont jamais passés au ciné parce que bon, voilà, mais il y en a tellement que tu t'y retrouves pas. Et puis de toute façon, comme tu décroches au bout du premier quart d'heure tellement c'est pourri, tu te dis, bon, j'ai du mal à les reconnaître et tout, mais c'est pas grave.
Ou des fois, il y a certains qui commencent bien, tu dis, ah, mais il est pas mal.
Mais non. Et donc, un inédit de Steven Seagal, jeudi prochain sur 13ème rue, Killing Point, qui date de 2008.
On s'est avec pissé dessus de rire sur la bande-annonce, qu'il est doux le chant des cigales.
Attends, c'est peut-être ce qu'il a achevé. C'est peut-être ce qu'il a achevé, parce que il y a également Isaac Hayes. Et Isaac Hayes, donc, on se rappelle, est mort en 2008.
Ah oui, son dernier rôle.
On va voir ce que Steven lui a fait subir. Pour que Isaac s'éteigne de cette façon, c'est dans Killing Point, donc c'est jeudi prochain sur 13ème rue à 20h40. Et comme on parlait justement de son alter ego à Steven Seagal, TF6 le même soir, jeudi prochain, on nous fait un spécial JCVD avec à 20h40 le documentaire de Jean-Claude à Van Damme. Suivi de, à 22h10, Universal Soldier, ouais, et à 0h10 de Hard Cops. Mais ça, c'est pas terrible,
c'est
terrible,
pas,
quoi.
C'est pas génial.
Non, de Sheldon Etich, quoi. Enfin,
après,
bon,
un chef-d'œuvre absolu de du polar qui est Universal Soldier, un truc comme ça.
Un polar, ouais, Universal Soldier.
Non, mais en plus,
j'essayais de faire de l'humour.
Letich, c'est le mec qui a fait un des bons JCVD, je sais plus lequel, je sais pas si c'est Bloodsport ou c'en est un
lequel
autre.
Sheldon Letich.
Sheldon Letich.
Oui, alors c'est pas impossible que ce soit lui qui ait fait Kickboxer ou
Kickboxer.
Ou cette époque-là en tout
non,
cas.
Kickboxer, je crois, c'est Worth This Alley.
Oui, Marc Dissal.
Non, Letitch, il en a fait un aussi dans cette période-là.
Oh là, il va falloir vérifier tout ça pour la semaine prochaine.
C'était vraiment pas mal. Hein, vérifie direct, là, comme ça, quoi, avant que je termine. On a également jeudi prochain, pour terminer quand même sur Cinéma Classique, La peur au ventre de Stuart Eisler en 55. Ça, c'est plutôt un polar. Avec Jack Palance, Shelley Winters, Lee Marvin et Laurie Nelson. Et jeudi prochain également, sur Orange Ciné Nouveau à 21h, Metal Hurlant, l'original de 81, donc le film canadien là de Jim Potterton.
C'est un omnibus, hein, c'est un ensemble de dessins animés.
Ouais, non mais bon, c'est le Metal Hurlant, c'est le vrai.
Ouais, mais c'est pas qu'un seul film en fait, c'est plusieurs.
Oui, il y a plusieurs segments quoi, de toute façon. Quoi. Mais bon,
avec les bandes son absolument géniales.
Ah, ouais.
Sheldon Lettich a réalisé Double Impact.
Double Impact, voilà, ouais.
Pourquoi quand il y a Jean-Claude, il y a toujours un Van Damme à côté?
Ah bah ouais, qu'est-ce que tu veux quoi. On termine la télé
Jean-Claude
avec...
Dreyfus, je sais pas.
On termine la télé avec vendredi, c'est sur France 4, vendredi prochain. À 23h15, l'honneur des gladiateurs de Jorge Papavasiliou avec Stéphane Hornung et Marion Mitterhammer. Et ça vaut vraiment le coup, je vous le dis. C'est un bon film péplum de gladiateurs et tout, vraiment intéressant. Tu aimes les films de gladiateurs?
Tu aimes les films de gladiateurs?
ou alors, si on s'est loupé, cette excellente série, on se demande, hein, c'est con, c'est un petit peu dommage parce que bon, c'était quand même assez sympathique, faut dire. Terminator, les chroniques de Sarah Connor,
excellentissime.
Rediffusé donc sur NT1 vendredi prochain à 21h35 avec Lina Headey, avec Thomas Decker, Richard T. Jones et tout, ça vaut le coup. Donc les deux premiers épisodes vendredi prochain. On a également sur Sci-Fi une soirée.
Peut-être pour ceux qui hésiteraient encore, le truc à dire, c'est que vous savez les derniers films Terminator, ils n'ont pas eu lieu dans la série. Ils sont arrêtés au 2. Voilà.
Oui, voilà. Parce qu'ils ont. Voilà. Ouais. C'est ça.
Oui, mais bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon.
Non, mais c'est très, très, c'est très, très bon.
Avec la magnifique Lena Headey.
Yes. Sur Sci-Fi, on a une soirée avec du recyclage à fond les manettes. Tout d'abord, à 20h40, c'est le Talisman de Peter Poe. Avec Michel Yeoh et Ben Chaplin, qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Il gagne sa vie, mon gars. Et à 22h30, Anaconda de Luis Llosa, avec Jennifer Lopez quand elle n'était pas encore retaillée. Donc oui. Elle avait encore son gros cul. Ice Cube, John Voight.
Ouais.
Ah bah oui, bah c'est vrai.
John Voight qui...
Et Eric Stoltz.
John Voight qui achève... oui, bah ouais. John Voight qui tue les serpents en les mordant au début. Hein.
Et Ice Cube qui est redoutable quoi, quand même. Oui, voilà. Attention.
Et qui est le méchant, devinez.
Ouais. Sur TCM...
C'est forcément un black et forcément rappeur.
Non.
Sur TCM, l'original, pas la copie, l'inconnu de Las Vegas de Louis Milestone. Avec l'ensemble du Rat Pack, c'est-à-dire Dino, Frankie, Sammy et Peter, Lawford, bien entendu, le beau-frère de l'autre, entre autres aussi. Et on termine avec un excellent western avec sur la chaîne Action, 21h vendredi prochain, El Dorado de Howard Hawks, le duel entre John Wayne et Robert Mitchum, excellent. Ainsi qu'un petit jeune qui allait faire parler de lui dans un autre film quelques années plus tard, James Caan. Tout ça donc dans El Dorado de Howard Hawks, 167, c'est sur la chaîne Action vendredi prochain, à partir de 21h.
Et si quelqu'un pouvait se dévouer pour aller chercher le Cowboy en catastrophe pour du sport, parce que là il tient plus debout, je sens que le sport ça va être à peu près aussi lymphatique qu'un match de Ligue 1.
Ah mais surtout t'es tout seul aujourd'hui.
Ah bah il paraît, ouais.
Oh là 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 là. Allez, on réunit les feuilles pour se préparer à les tasser professionnellement. Et en attendant, donc il faut que je retrouve sur le prompteur où est la place. Mais Thomas, tu sais qu'il y en a qui nous écoutent encore en FM. Est-ce que tu peux faire un résumé pour ceux qui ont pris cette émission en cours de route?
Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, nous avions un prisonnier qui doit prendre sa pilule, un duo diplomatique, un chat à la Nouvelle-Orléans, un basset qui regarde passer les avions, un chéri de ces dames muets, de la daube, des babouins mutants, des méga piranhas. Faut-il ressusciter Bruce Willis, le retour du lourd costaud et du tatoué, un cowboy japonais normal, Steven S. qui a achevé Isaac H. et un beau frère
frère et un gros cube encore retaillé.
Donc, headshot au paintball, un petit peu costaud, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, laisser vos commentaires, poser vos questions. Et nos chroniques écrites avec notamment, il y a le lien vers justement la vidéo du Simpson, de l'épisode Simpson passé dimanche dernier, la chronique de l'or et le sang, la BD signée à 8 mains, The Town, l'histoire de Cap Calloway, le lien vers la BD blog et l'album de Junkie Beats et plein d'autres choses. Et il y a même le programme tout à l'heure à partir de 14h, ça c'est du sport. Et je vous laisse justement avec lui. Rendez-vous la semaine prochaine. Vous allez en attendant sur le site suppléantweekend.fr pour tout ce programme. En attendant, vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM. Et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, Navis dans les étoiles et plein d'autres choses normalement, ouais, d'ailleurs.
Il sera question de Facebook.
Ah, The Social Network. Ah, tiens, ça fait une chouette sortie. Allez, et n'oubliez pas d'aller sur le site suppléantweekend.fr. Vous allez dans le club des audilecteurs. Vous avez le lien vers notre Facebook, justement. Ciao, bye bye.